Donc bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à partager avec vous quelques éléments développés dans ma thèse, donc effectivement qui a été soutenue il y a peu, en novembre dernier. Alors ma thèse portait sur la participation politique à distance dans le cadre des migrations égyptiennes en France. Je me suis intéressée en fait aux actions individuelles et collectives menées donc par des Égyptiens installés en France en 2011 et qui ont vécu à distance les soubresauts, les troubles politiques de leur pays d'origine, donc depuis l'étranger. Mais dans le temps qui m'est imparti, du coup, je voulais plutôt développer, en tout cas échanger avec vous, questionner un élément qui n'a pas constitué donc le cœur de ma thèse, mais qui est apparu tout de même tout à fait important pour comprendre les engagements et parfois même comprendre du coup les désengagements à distance ou les maintiens en tout cas à distance du politique. Donc sans évoquer dans le détail ici les modalités de participation politique à distance, il apparaît tout à fait nécessaire de comprendre comment les migrations égyptiennes en France se composent, comment elles se structurent et avant cela même, comment les projets migratoires naissent et s'articulent autour de dynamiques sociales locales tout à fait déterminantes. Donc je souhaiterais partager avec vous une réflexion sur l'utilité de mobiliser une échelle que moi j'ai peu explorée dans ma thèse, mais qui m'apparaît tout à fait importante pour comprendre les parcours individuels, cette échelle qu'on dirait intermédiaire, en fait cette échelle familiale qui du coup influence les devenirs des uns et des autres. Donc pour comprendre les conditions d'émergence des projets migratoires, il me semble tout à fait pertinent de questionner donc le cadre familial, les relations intergénérationnelles, mais aussi les relations intragénérationnelles. Ces relations laissent voir des transmissions, des solidarités, mais aussi des ruptures qui en disent parfois long sur les contextes sociopolitiques dans lesquels elles ont lieu. Les résistances aux injonctions familiales, ou au contraire la reproduction d'un modèle qui est parfois oppressant, donne lieu à l'émergence de relations particulières, à des redistributions des positions de pouvoir, à des conflits et parfois même à des mises à l'écart temporaires. Donc mon enquête repose en fait sur une série d'entretiens et de discussions informelles que j'ai réalisées en français, en anglais, parfois en arabe aussi, en France et en Égypte, et plus spécifiquement dans deux villages du delta du Nil. Plus particulièrement, je voulais vous présenter, dans le cadre de cette communication, le cas d'une famille que j'ai rencontrée dans un des deux villages, donc que j'appellerai ici Kafr el-Shams, le village donc de Kafr el-Shams, qui est situé à 120 km au nord du Caire, donc dans le delta du Nil. Et ce village compte à peu près, pour vous situer, 40 000 habitants. Alors, c'est quelque chose d'assez commun en Égypte de dire qu'une localité composée de 40 000 individus, c'est un village. Là, ça peut choquer, mais en tout cas, c'est considéré comme tel. Donc le premier élément que je voulais, la première idée que je voulais discuter avec vous, c'est donc cette idée d'un poids important des réseaux familiaux pour comprendre donc la construction des projets et des itinéraires migratoires. L'analyse des réseaux sociaux dans le cadre des migrations internationales est apparue suite à la remise en cause des théories dites de répulsion-attraction, qu'on appelle souvent le modèle push-pull, pensé dans les années 70 souvent sous l'impulsion d'une démarche impulsée par les économistes, en tête Harris et Todaro, qui ont construit ce modèle-là, donc d'impulsion répulsion-attraction. Et donc, selon ces deux auteurs, les mouvements de population résulteraient de la rencontre entre, d'un côté, des économies expulsatrices et, de l'autre, des économies plus attractives. Ces théories s'appuient implicitement sur l'hypothèse d'un immobilisme des populations, par nature, et sur l'hypothèse d'un calcul rationnel réalisé en amont des départs, et donc d'un calcul identique chez tous les individus. Or, ce point de départ m'apparaît tout à fait limité dans la mesure où ce modèle ne permet pas, d'une part, d'identifier l'origine des déplacements, et surtout ne permet pas de saisir les changements éventuels dans les manières de faire et dans les pluralités de manières de percevoir la migration, y compris chez un même individu, à des temporalités différentes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc dans ma communication d'aujourd'hui, je souhaiterais donc au contraire vous soumettre l'idée suivante. C'est en mobilisant une sociologie des réseaux attentive aux échanges, aux interactions et aux influences réciproques que l'on peut saisir à la fois la centralité des familles dans les constructions des projets migratoires et d'autre part que l'on peut comprendre de quelle manière les migrants sont aussi parfois porteurs de transformations, notamment au sein des cadres familiaux. Donc la famille, en tant qu'entité institutionnalisée, est une composante essentielle dans la construction des parcours migratoires en raison de son action à trois niveaux. Comme unité de subsistance, la famille rassemble simultanément plusieurs caractéristiques qui influencent largement les motivations et la propension au départ. Pourvoyeur de fonds nécessaires à la migration, le ménage investit et s'investit dans le voyage. En tant qu'agent de socialisation, l'unité domestique participe aussi de la transmission des normes et des valeurs relatives à la migration. Enfin, la famille est un groupe dispersé sur lequel le migrant peut s'appuyer en amont du départ, durant le voyage, et parfois lorsqu'il s'installe dans le pays d'installation, donc dans le pays d'arrivée. La famille s'avère donc être une ressource déterminante dans le passage de l'information, dans l'accompagnement, ainsi que dans l'assistance à tout moment de la migration. Je vais donc illustrer cette idée par le biais d'un cas d'une famille rencontrée donc dans le village de Kafr el-Shams et qui donne à voir en fait au fil des années et au fil des générations comment cette idée de la famille comme une structure pouvant jouer plusieurs rôles. Alors du coup, je suis un peu devant, peut-être vous voyez ou pas. Donc voici un schéma de parenté qui représente donc la famille en question. Alors j'ai d'abord rencontré Islam, qui est au milieu là. On s'est rencontrés à Paris en janvier 2014. Et puis le mois d'après, moi je partais en Égypte. Lui aussi, puisqu'il partait, il rentrait en Égypte pour la première fois. Ça faisait 8 ans qu'il n'était pas rentré. Et donc il allait au mariage de Amine, son frère, et donc sa belle-sœur, Leïla, que vous voyez là. Peut-être un premier élément qui saute aux yeux quand on a réalisé quand j'ai réalisé ce schéma de parenté. En fait, bon, c'est assez classique, hein, les triangles représentent les hommes et les ronds les femmes, ça c'est les règles classiques du schéma de parenté. Mais en fait, on s'aperçoit que quasiment tous les triangles sont entourés d'un cercle de couleurs qui représente la migration. En fait, pratiquement tous les hommes ont connu à un moment ou à un autre la migration. Alors soit ils sont partis vivre en France, soit ils vivent toujours en France, soit ils sont partis vivre en Afrique du Sud ou en Arabie Saoudite. Donc vous voyez, c'est un phénomène qui quand même touche majoritairement les hommes. Donc je vais commencer, je vais décrire quelques-unes des personnes qui constituent donc ce schéma de parenté. Je vais commencer par Mustapha, donc le père. Hop. Qui est là, en bleu. Et donc Mustapha est né en 1952. Alors pour vous décrire un petit peu le cadre de l'entretien, on s'est retrouvé assis au milieu du poulailler. Mustapha est en train de fumer sa chicha et de boire son thé. Malgré ce décor du coup très rural, en fait Mustapha portait tous les jours un costume. Alors il racontait l'histoire de ce costume qu'il avait acheté en France, et puis il racontait l'étendue de sa garde-robe aussi. Alors il y avait 31 costumes qui avaient été achetés en France, H&M, Zara, qu'il avait acheté, il avait fait des bonnes affaires pendant les soldes. Et donc régulièrement, sans qu'il y ait forcément une occasion spéciale, il s'habillait donc avec son costume, ses chaussures de ville, et donc déambulait dans la ville. Et très souvent il expliquait qu'il se devait d'être le plus beau de la place. Donc, bon, au-delà de ces petits détails-là, ce qu'on comprend surtout, c'est que dès le premier regard, il envoie un signal très clair d'une forme de réussite sociale et il s'attache aussi à le montrer au travers de ses vêtements. Donc, son père était un commerçant reconnu qui n'avait pas fait beaucoup d'études, mais qui était devenu un commerçant de céréales qui achetait et vendait du grain dans toute la région. Cette famille était quand même assez connue, puisque une des rues du village portait le nom de la famille. Le père, donc son père, était très souvent sollicité pour régler des conflits entre les habitants du village. Donc c'était quand même une famille qui occupait une place d'honneur dans le village. Et donc, comme vous le voyez, Mustapha a trois sœurs. Donc il est le plus jeune de c'est le dernier de la fratrie. Et tous, on peut bénéficier des réformes de l'éducation initiées sous le régime de Nasser, qui leur ont permis d'abord d'accéder à l'université, puis ensuite d'obtenir un poste de fonctionnaire à l'issue de leurs études. En 1973, à l'issue de ses études donc universitaires, Mustapha est exempté de service militaire, puisqu'il est le seul homme de sa fratrie, et il est directement nommé fonctionnaire à Port Saïd, au service des douanes, puis il obtient quelques années plus tard un poste de comptable dans l'administration fiscale à quelques kilomètres du village. Alors son poste assuré, Mustapha ne tient pas pour autant à se marier, précisant qu'il ne voulait pas être enchaîné, qu'il préférait continuer à courir. Donc bénéficiant d'un emploi réservé, il demande un congé sans solde pour partir avec un de ses amis en Jordanie, pour, dit-il, voir du pays. Donc il est essentiellement motivé par l'envie d'aller découvrir, voir ce qui se passe ailleurs. Bon, en réalité, c'est pas tant en tant que touriste qu'il occupe ses journées, mais plutôt en tant que travailleur en situation irrégulière. Il reste plusieurs mois donc en Jordanie. Mais en 1981, le père de Mustapha tombe malade, ce qui écourte son voyage en Jordanie. Il rentre donc à la maison et reprend donc son poste de comptable dans l'administration publique. Mustapha et Dounia, donc son épouse, se marient en 1983 et en 84, Islam, donc le premier fils, naît, puis ensuite sa sœur viendra en 85, son frère en 86. Vous voyez, les dates que j'ai mis à côté des prénoms sont les dates de naissance pour que vous arriviez à repérer un peu les différentes périodes. Donc là encore, comme vous pouvez le voir dans le cas de Dounia, hein, ses frères et beaux-frères ont tous connu la migration. Donc l'année 85 est marquée, je le disais, par la naissance de Oda, la première fille du couple, le second fils, Amine, qui arrive en 86, et Mustapha, influencé par ses voisins, par un de ses voisins notamment, parti en Allemagne, décide lui aussi de partir gagner de l'argent à l'étranger. Et donc, Mustapha, désireux, dit-il, de voir autre chose, mais aussi de récupérer de l'argent pour les enfants qui commencent à grandir, part en Arabie Saoudite en 1987. Alors c'est un peu particulier puisque dans cette période-là, on n'est pas dans une période de départ massif vers les pays du Golfe. C'est-à-dire, peut-être que vous connaissez le cas de l'Égypte est assez particulier puisque les mouvements migratoires entre 73 et 85 ont vraiment explosé. Pour le coup, il y a eu très très rapidement beaucoup de gens qui sont partis, que ce soit vers les pays du Golfe ou la Libye. Et puis, période du contre-choc pétrolier, on a eu des retours massifs, une baisse donc de ces mouvements migratoires-là. Et là, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'ils partent en fait en étant un petit peu décalés par rapport à la mode du moment. Et donc officiellement, il ne part pas pour travailler, hein, il part pour faire le petit pèlerinage. Donc il a un titre de séjour et puis il dépasse la durée de validité de son titre de séjour et il reste travailler donc en situation irrégulière dans un hôtel. Alors que son salaire de fonctionnaire en Égypte était de 150 livres égyptiennes par mois, il gagnait près de 10 fois plus en Arabie Saoudite. Donc contrairement au voyage précédent, là l'objectif était de gagner de l'argent. Clairement, c'est comme ça qu'il l'exprime, et de faire des économies pour assurer l'éducation de ses enfants et donc entretenir son ménage. Le salaire égyptien, me disait-il en entretien, pouvait suffire, mais il s'agissait de réaliser des investissements permettant d'assurer des revenus aux générations à venir. À l'issue des trois années passées en Arabie Saoudite, Mustapha profite de ses économies pour acheter des terres et les louer, environ 800 livres égyptiennes par mois, et se constituer donc un capital foncier important. Entre 1990, vous voyez la petite dernière Noran qui arrive, et donc entre 1993 et 1994, Mustapha part travailler à plusieurs reprises en Israël. Son emploi de fonctionnaire lui assure la délivrance de visas de tourisme qu'il s'attache à respecter, hein, à chaque fois. L'idée n'était pas de rester en situation irrégulière en Israël. Et donc dans cette période de normalisation des relations diplomatiques entre l'État égyptien et Israël, les voyages se développent et peu à peu, Mustapha devient une des personnes ressources dans les villages pour distribuer les informations à ceux qui veulent partir. Ce sont clairement les salaires élevés qui ont poussé Mustapha à s'intéresser à cette destination, puisque alors qu'il gagnait à peu près à cette période-là 800 livres par mois dans le cadre de son emploi en Égypte, il gagnait là-bas presque la moitié en 2 jours. Donc on a vraiment des différences de salaire extrêmement importantes. En parallèle de ses voyages, Mustapha développe une autre activité, il décide d'investir dans le secteur agricole. Et là, il s'est mis à développer un petit business d'animaux de la ferme. Il achetait des buffles, 500 livres égyptiennes, il les revendait 4000 livres égyptiennes. C'est quand même une plus-value assez importante. Donc on voit qu'il diversifie ses activités. Et en 2000, alors qu'il est âgé de 48 ans, ce qui est déjà un âge en migration, pour ceux qui travaillent sur ces questions-là, en général, on a des gens qui partent quand même beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc là, alors qu'il est âgé de 48 ans, il décide de partir en Europe. Il se rend donc à l'ambassade allemande et il demande un visa de tourisme. Fort du coup de ses économies, de son salaire régulier et de l'attestation de son employeur qui dit bien qu'il sera en congé pendant une période donnée, il obtient assez facilement un visa de tourisme. Arrivé à Berlin, en réalité il ne veut pas tant rester à Berlin que rejoindre son beau-frère dans le sacre, qu'on voit là, l'époux de sa belle-sœur par alliance. Et si l'insertion en France est pénible et difficile, l'expérience n'est absolument pas racontée à la famille, comme c'est souvent le cas. L'important, dit-il, est d'envoyer de l'argent et de ne pas montrer de faiblesse. Mustapha travaille donc, comme la majorité des Égyptiens, dans le secteur du bâtiment et construit peu à peu son réseau, donc dans la région parisienne. Jusqu'à l'arrivée en France de son fils Islam en 2006, Mustapha partage son logement en location avec d'autres travailleurs sans papier égyptiens qui viennent eux aussi de Kafr el-Shams. Alors que les conditions de vie en région parisienne sont loin d'être plaisantes, son fils décide de le rejoindre, donc en 2006. Et Mustapha explique ne lui avoir donné aucun conseil et le pousse même à se débrouiller tout seul. En entretien, il explique que son fils doit se constituer tout seul en migration. Alors que lui avait vécu dans des appartements exigus, partageant l'espace avec plusieurs personnes, il accueille son fils dans des conditions bien meilleures que celles que lui avait pu connaître. Et à son arrivée, Islam s'étonne de la taille réduite de l'appartement. Au bout de quelques semaines, les conflits s'accentuant, Islam décide de vivre avec ses amis, donc de Kafr el-Shams, de partir de l'appartement. Mais il se rend vite compte de la durée de l'expérience et il revient quelques jours plus tard, au grand bonheur évidemment de son père, qui vient de lui donner sa première leçon en migration, c'est-à-dire c'est compliqué, je ne t'avais pas raconté tout ça, mais en fait la situation est compliquée, tu ferais mieux de rester auprès de moi. Entre 2005 donc et 2010, le père et le fils vont cohabiter tous les deux donc dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Et Islam va petit à petit apprendre à se débrouiller tout seul, à cuisiner, à construire son réseau professionnel et finalement a très peu bénéficié des conseils de son père ou du réseau que son père avait pu lui se constituer. En 2010, bientôt retraité en Égypte, donc Mustapha décide de rentrer à Kafr el-Shams définitivement et de lancer la construction de la maison. Donc voilà la maison familiale. On voit sur cette photo-là... Quand on se promène dans le village, on voit de manière assez évidente les maisons de migrants, avec des façades décorées, il y a des moulures, vous voyez, c'est quand même extrêmement travaillé, alors que d'ordinaire, ça c'est des maisons plus classiques qui sont faites en torchis. Et donc déjà au premier coup d'œil, on voit les maisons de migrants et les maisons de famille qui, eux, n'ont pas de migrants dans le membre de la famille. Donc ce ne sont pas des préoccupations économiques qui ont motivé les premiers voyages de Mustapha, mais plutôt l'envie d'aller découvrir du pays. Les ressources économiques, le statut social de la famille, ainsi que son emploi de fonctionnaire, ont contribué à financer le premier visa. Influencés par quelques voisins et surtout par leur ascension sociale et leur ascension économique, les raisons du voyage changent peu à peu. Les motivations au départ et au retour évoluent à mesure que les événements biographiques s'articulent. Le célibat accompagne ses désirs d'exploration, la mort de son père écourte son voyage en Jordanie, la naissance du troisième enfant précède le projet de départ vers l'Arabie Saoudite, Et à la fin des années 80, les départs s'appréhendent davantage au travers des possibles gains économiques. La migration devient donc une source de revenus supplémentaires. Mais au-delà de l'achat des biens de consommation et de la construction de l'habitation principale, les investissements productifs pour le compte de la famille sont ainsi réalisés, participant de l'inflation locale, et on pourra peut-être rediscuter de ça aussi, comment les villages sont profondément modifiés par cette donne migratoire. L'achat des terres, par exemple, les investissements qui sont réalisés viennent profondément modifier l'espace local. Et lorsqu'il foule le sol européen, Mustapha fait aussi appel à son beau-frère par alliance, installé en région parisienne, démontrant ainsi combien la famille est une ressource dispersée et une matrice opératoire des migrations internationales. Donc toujours sur cette question d'investissement et de comment on va placer les ressources en migration, Islam savait très bien, donc le fils aîné, savait très bien qu'une fois marié, il occuperait le second étage de l'immeuble. Parce qu'en gros, en fait, cette partie-là, c'est l'espace commun, et chaque étage, donc ici, il y a les parents et la plus jeune fille qui, au moment où je les ai rencontrés, n'étaient pas mariés. Le premier étage, donc, pour Islam, et le dernier pour Amin, qui sont donc les différents frères de la famille. Donc il savait très bien qu'il occuperait ce deuxième étage. Pour autant, dès 2012, alors qu'il était coincé en France parce que sans titre de séjour, il a décidé de faire l'acquisition d'un terrain à la périphérie de la ville. Et pour vous donner un peu une idée, alors je ne sais pas si on voit très très bien, c'est une satellite, mais en fait on voit comment ce village-là, entre 2004 et 2017, s'est vraiment étalé. C'est-à-dire qu'en termes de densité, bon là on ne voit pas très bien, notamment avec la lumière, mais il y a des zones qui sont concrètement grignotées, les terres cultivables. Ici. Et donc c'est bien avec l'expérience de son père aussi qu'il décide d'investir dans la terre. Et donc il y a quand même des transmissions qui ont lieu. Voilà. Et donc pour revenir un petit peu à Islam, alors je vous remets peut-être le... Voilà, pour que vous ayez bien en tête donc la fratrie, Islam c'est donc le fils aîné qui est né en 1984. Et lui a suivi une scolarité publique jusqu'à l'obtention donc, d'une licence de la faculté de comptabilité dans la ville voisine. Et en septembre 2003, donc, il est diplômé de l'enseignement supérieur et commence son service militaire, qui est donc obligatoire, en mai 2004. Et un an plus tard, à la fin de sa conscription, il prépare son départ. Mobilisant donc un réseau relationnel capable d'atteindre les ambassades, il paye près de 3000 euros un visa portant la mention touriste pour rejoindre donc, l'Europe. Pendant les 5 premiers mois, donc Islam ne travaille pas, hein, il bénéficie du logement de son père. Mais la relation avec son père est quand même très très tendue, en tout cas la première année, et les disputes commençaient toujours, en tout cas selon Islam, parce que son père voulait jouer au père. Alors qu'Islam avait appris à être adulte, à devenir un homme sans lui, l'autorité paternelle était finalement très difficilement acceptable pour lui. Islam commence donc à travailler dans les marchés alimentaires du 19e arrondissement, puis à la plateforme commerciale de Rungis, où quelques entrepreneurs égyptiens font fortune depuis quelques années. Et pendant donc 8 années et demie, Islam ne pourra pas rentrer en Égypte. Il restera bloqué en raison de son défaut de titre de séjour. En janvier 2014, donc je le disais, il travaille dans le secteur du bâtiment et il décide de rentrer temporairement pour le mariage de son frère. En fait, son quotidien se résume surtout à travailler. L'essentiel de ses économies sont gardées, envoyées directement en Égypte pour participer à la construction donc, de cet immeuble familial. Et donc il va rentrer qu'en 2014 pour le mariage de son frère. En fait, qu'il s'agisse d'Islam, de son père ou des voisins, on voit bien comment une multitude de mécanismes sont à l'œuvre pour expliquer les départs des uns et des autres. Et donc pas seulement les théories de répulsion d'une économie qui serait juste hostile aux travailleurs locaux et qui les enverrait vers l'étranger. Le réseau de parenté, d'amitié ou simplement l'origine commune apparaissent comme des éléments constitutifs nécessaires hein, pour comprendre ces mouvements migratoires. Et c'est Douglas Massé qui écrivait déjà hein, dans les années 90, donc rien de très nouveau, mais chaque migration modifie le contexte social dans lequel les décisions ultérieures sont prises, généralement d'une manière qui accroît les probabilités de migration supplémentaire de ceux qui viennent. Donc on voit comment l'imbrication et reconstruire finalement cette histoire familiale permet aussi de comprendre comment les expériences précédentes sont subjectivées par les individus, sont appropriées. Et dans ce sens, si un phénomène de mimétisme peut être envisagé au regard des éléments qui ont amené les individus rencontrés à réfléchir à leur départ, il est important de penser aussi à la multiplication des réseaux transnationaux qui se construisent, donc au-delà même de simplement la sphère familiale. Donc ces réseaux ont permis de réduire considérablement les coûts de la migration, assurant donc aux migrants des points de chute, la transmission des informations nécessaires, etc., etc. Donc si la situation économique et sociale explique en grande partie les départs hors d'Égypte soient envisageables, les réseaux construits les rendent possibles. Et au-delà donc d'un élargissement du champ des possibles migratoires à mesure que le phénomène se démocratise quantitativement, on va voir avec le cas d'Amin, donc le second fils, que le projet migratoire s'inscrit aussi dans une volonté de s'émanciper du cadre familial et que son frère va tenter d'impulser aussi une autre dynamique, en tout cas d'autres relations à l'intérieur de la famille. Et j'arrive là donc au second point de mon intervention, sur cette idée de redéfinition donc des rôles et cette volonté de sortir du statut un peu de cadet social par la migration. Le retour des émigrés est de manière quasi systématique ponctué de démonstrations de réussite. On l'a vu avec la maison, hein, très très vite, c'est un des objectifs. Il faut montrer, que ce soit dans ses vêtements ou dans même la maison, le bâti, qu'il y a réussite, ce qui va influencer du coup les autres habitants du village. Si les conditions difficiles de travail ne sont jamais décrites, les économies, en revanche, qui sont réalisées en migration sont largement exposés et viennent accroître les inégalités locales. Les écarts de fortune entre les familles ayant des membres émigrés et celles qui n'en ont pas se voient clairement. Par cela, les migrations pénètrent donc avec force les représentations sociales locales. Et au fil des années, les chances d'ascension sociale des hommes restés au village s'anéantissent à mesure que les émigrés donc achètent des terres pour y construire leur logement ou comme simple placement, faisant ainsi augmenter les prix des terrains. L'idée selon laquelle la mobilité sociale s'opère au travers de la mobilité géographique accompagne une dévaluation des diplômes et des possibles conditions d'ascension sociale dans le pays d'origine. Plus encore, et au-delà de la situation locale, la jeunesse fait aussi l'objet d'une attention particulière de la part des politiques publiques depuis les années 2000 en Égypte, devenant par là même une catégorie politique mobilisée par les acteurs. Ça, je renvoie hein, à tous les travaux qui ont été faits sur la révolution égyptienne notamment. On a une catégorie politique, la jeunesse, qui se construit aussi au regard et qui vient répondre aussi à tout un tas de politiques publiques. Mais donc, bien avant 2011, la jeunesse était déjà souvent présentée au travers des problèmes qu'elle rencontrait au niveau de l'emploi, dans le cadre familial, des comportements déviants, supposés déviants en tout cas, qu'elle rencontrait, enfin qu'elle adoptait. Et là, je renvoie aux travaux de Karine Tourné. Qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc dans tous ces débats sur la place de la jeunesse dans la société égyptienne, la famille occupe une place conséquente. D'ailleurs, très souvent, elle peut être présentée comme responsable des comportements déviants de la jeunesse et rappelle combien les familles sont centrales finalement dans les projets de vie des acteurs. Et en dehors même de la migration, la famille, en tant qu'instance de transmission des attentes sociales, agit, prend part aux décisions individuelles. Plus encore, la jeunesse, si elle n'est qu'un mot pour Bourdieu, ne correspond pas seulement à un âge biographique. Elle renvoie également à des logiques sociales empreintes de rapports de subordination. En Égypte, les jeunes sont, vous savez peut-être, particulièrement touchés par le chômage. Ce n'est pas une situation spécifique à l'Égypte. Et l'indépendance vis-à-vis de la famille se gagne souvent au moment du mariage. Le maintien dans un statut d'infériorité et les processus d'infériorisation sont donc transversaux aux différentes catégories sociales. Et dans ce sens, le cas que je vous présente peut aussi être élargi. Hein. C'est pas spécifique à cette famille-là. Il faut savoir qu'en Égypte, le mariage est extrêmement important. C'est un des piliers de la société. C'est une institution qui suscite d'ailleurs de nombreux débats quant aux difficultés financières qu'elle implique. Et si le mariage marque une étape importante dans les trajectoires individuelles des uns et des autres, le mariage est aussi une institution centrale, parfois vectrice d'une certaine pression sociale. Pour les hommes, il peut, et il est souvent, présenté comme une des raisons de la migration. C'est parce que l'on cherche à obtenir l'argent nécessaire pour payer le mariage, et on va voir qu'il n'y a pas que la cérémonie en tant que telle qu'il faut payer. Les migrants vont donc mettre en avant une des premières raisons de leur départ, peut-être de payer ce mariage-là. Donc dans ce cadre, la migration peut apparaître comme une étape dans un processus de reconnaissance qui mêle une affirmation de soi en tant qu'individu, mais également comme une manière de sortir de ce statut de cadets sociaux. Alors cette notion de cadets sociaux renvoie plus largement à l'ensemble des catégories sociales qui sont dominées. Hein. On pourra peut-être y revenir sur les contours de cette notion-là. Puisqu'en son sein, il existe des hiérarchisations, hein, ce n'est pas un bloc uniforme. Mais en tout cas, le mariage, le fait de devenir un homme passe par le mariage, mariage qui est extrêmement coûteux, et donc la migration vient s'insérer aussi dans ces projets-là. Et donc je vais vous parler, pour terminer, du deuxième frère. Donc là, on est chez Amine. Ces photos ont été prises le jour du mariage. Donc, je ne vous fais pas le détail, bon, on a les salons, la cuisine. Peut-être ce qui peut interpeller, c'est la chambre des enfants. Donc le jour même du mariage, on a déjà la chambre des enfants qui est prête avec les petits nounours. Et donc Amine, contrairement à son aîné, contrairement à ses sœurs, à ses oncles, à ses parents, à ses tantes, Amine n'a jamais fréquenté l'université. Persuadé que, compte tenu de la configuration et de la conjoncture, des diplômes lui seraient bien inutiles. Lorsqu'il termine le lycée, donc en 2003, il est travailleur journalier dans le secteur du bâtiment, mais pour lui, c'est que temporaire. Hein, il s'agit de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir partir à l'étranger et donc payer son mariage. Sa carrière de peintre en bâtiment s'interrompt pendant 2 ans, durant lesquels il est appelé à faire son service militaire. Et comme de nombreux voisins, à l'issue donc de son service militaire, il souhaite rejoindre son frère, qui lui est à Paris. Et donc, il va essayer de lui aussi payer un visa pour arriver jusqu'en Europe. Il dépense des sommes folles. La première tentative, il dépense 4000 euros. Il s'endette donc auprès de son frère. Essentiellement, mais systématiquement, les visas lui sont refusés, en plus pour des raisons qui sont difficilement compréhensibles, mais en tout cas, lui a une impossibilité de partir pour l'Europe, donc il va réorienter son choix et il va partir en Arabie Saoudite. Il va mobiliser par l'intermédiaire d'un ami qui travaille lui déjà en Arabie Saoudite, il va pouvoir partir pendant 2 ans et gagner les sommes nécessaires donc au paiement de son mariage qui aura lieu, donc je le disais, en 2014. Et c'est par l'intermédiaire de sa petite sœur donc qu'il va rencontrer sa future épouse. L'intégralité des économies qu'il a accumulées en Arabie Saoudite vont directement être utilisées pour faire construire et aménager donc le troisième étage de la maison. Et donc je le disais, là dans l'appartement, tous les objets sont neufs. L'intégralité des vêtements de son épouse auront été achetés. Enfin, il n'y a absolument rien de seconde main là-dedans, tout doit être nouveau. Et en ce sens, il répond en tout point donc aux exigences familiales et aux normes sociales telles qu'elles sont édictées en Égypte. Deux éléments attirent mon attention sur ce cas-là, d'abord concernant le désinvestissement scolaire au profit de la migration, ou plus largement l'abandon du marché du travail local en faveur de la migration. Alors ces éléments sont des préoccupations anciennes hein, pour les sociologues qui s'intéressent aux migrations. Déjà, Abdelmalek Sayad expliquait, lors du deuxième âge de l'émigration algérienne, indiquait une tendance chez les candidats à l'émigration à délaisser, à s'interdire même de chercher du travail sur place avant d'émigrer. Donc à travers le temps, les jeunes générations acquises à l'idée d'un contexte professionnel défavorable abandonnent jusqu'à l'idée même d'une ascension sociale possible en dehors de la migration. Et donc le départ devient une perspective pensée à la fois individuellement mais aussi collectivement comme favorable et comme unique moyen de subvenir à ses besoins. Puis la deuxième chose concernant le mariage, depuis les années 2000, et Amine ne fait absolument pas figure d'exception, quant au fait de que les désirs migratoires soient arrimés au désir de trouver les fonds nécessaires au mariage. C'est quasiment systématique. En tout cas, c'est une des premières raisons qui est invoquée pour expliquer la migration. Et c'est vrai que les coûts relatifs au mariage correspondent à des postes de dépenses tout à fait colossaux. Alors, c'est un certain nombre de travaux qui portent sur l'Égypte, mais c'est dans tout le monde arabe où on a aussi des dépenses tout à fait faramineuses pour ces cérémonies-là, que ce soit le mariage ou autre. Donc la migration se présente comme une voie privilégiée par les futurs époux ou les jeunes époux pour subvenir aux besoins du mariage. Et alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je voulais aussi vous parler, je vais le faire de manière très, très rapide. Du coup, la petite dernière, puisque la question de son mariage à elle a été largement discutée dans l'ensemble de la famille. En fait, quand je l'ai rencontrée en 2014, Nouran habitait la maison familiale, puisqu'elle était pas, mais elle était engagée avec un jeune homme qui, lui, était parti 2 ans auparavant. Elle est ici. Pardon. Donc, elle s'était fiancée avec un jeune homme qui était parti 2 ans auparavant à Paris, mais qui était coincé à Paris, puisqu'il n'avait pas de titre de séjour. Donc, le mariage tardant à s'organiser, la famille avait décidé de rompre les fiançailles, de rendre les bijoux et de terminer cette relation-là. Au lendemain du mariage donc, de son frère, Amine et sa belle-sœur, un ensemble de jeunes hommes, de trentenaires, sont passés par la maison pour demander en mariage la Nouran. Et Nouran refusait catégoriquement. C'est-à-dire qu'elle était, donc elle avait 24 ans, et il se trouve que les hommes qui se présentaient, mais notamment parce qu'ils avaient perdu du temps, entre guillemets, en migration, les hommes qui se présentaient avaient une trentaine d'années. Et pour elle, il était totalement impossible de dire, mais oui, certes, ils ont beaucoup d'argent, c'est plutôt des bons partis, mais voilà, ça ne m'intéresse pas, en tout cas, j'ai... Donc, elle a refusé plusieurs demandes et Islam s'est mis de son côté et s'est affronté aux parents pour dire « Non, mais en fait, ma sœur, elle va se marier avec celui qu'elle aura choisi. » Et ça en est suivi tout un tas de conflits extrêmement importants entre les parents et surtout la mère et la grand-mère qui rappelaient à Islam qu'on était en Égypte, qu'on n'était pas en France. Et que ici, c'est comme ça que ça se passait. C'était les parents qui devaient choisir et elle devait se marier parce qu'elle commençait à être trop vieille. Il faut dire 24 ans, c'était quand même un âge déjà avancé. Et donc, il y a eu tout un tas de conflits. Et Nouran disait, si j'ai plus le soutien de mon grand frère, je sais que je perds parce que je n'aurai pas le rapport de force. Et donc, on voit comment lui étant à l'étranger, envoyant un certain nombre d'argent quand même de manière assez régulière pour faire vivre la famille, avait aussi un poids dans ces discussions et pouvait faire un petit peu tampon. Alors, qu'on se comprenne bien, je ne pense pas que c'est parce qu'Islam était en France qu'il avait cette position par rapport au mariage. Je pense que cette position, on va dire, libérale, est une position adoptée par tout plein d'Égyptiens qui n'ont jamais quitté l'Égypte. Hein. C'est aussi un élément de contexte. En tout cas, aujourd'hui, c'est des choses qui sont discutées dans la jeunesse égyptienne et ce n'est pas forcément directement lié à la migration. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler aussi de cette affaire de mariage et comment ces discussions-là, elles sont aussi prises dans le cadre plus général de la fratrie des parents, voire des grands-parents aussi, puisque la grand-mère avait un certain nombre d'arguments pour pousser la plus jeune à se marier. J'en suis à combien de temps ? 5 minutes ? Très bien, très bien. Dans la discussion, et donc notamment dans le conflit qui a opposé donc Islam et sa mère et sa grand-mère, ce qui apparaissait intéressant, c'est que la migration était à la fois un élément de qualification et un élément de disqualification. C'est-à-dire que les hommes qui se présentaient étaient des bons partis parce qu'ils avaient migré et parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir des titres de séjour et donc ils pouvaient ramener des euros, notamment parce qu'ils étaient installés en France. Et de l'autre côté, on renvoyait aux grands frères cette idée, mais toi tu es à l'extérieur, donc tu n'es plus vraiment un Égyptien. Et finalement, ce qui fait tradition, ce qui fait le fonctionnement des familles égyptiennes, ben, tu ne sais plus très bien comment ça fonctionne parce que tu es parti. Donc on a cette double position, en fin de compte, cette double grille de lecture à l'intérieur de la famille comme étant à la fois un élément positif et en même temps quelque chose qui va servir à disqualifier la parole. Et donc, pour terminer sur ces affaires de mariage, évidemment, une fois que Oda étant marié, Amin étant marié et Nouran étant marié, évidemment, il fallait bien que le dernier, enfin, le premier de la fratrie, Islam, se marie aussi. Et là, ça a été tout à fait intéressant, puisque moi, quand je l'ai rencontré au début, on a toujours discuté de ces questions-là. Et dès le début, il disait que lui, comme il avait grandi sans son père, notamment parce que son père était en migration, il refusait cette idée de se marier au village et de passer le plus clair de son temps en fait éloigné de sa famille, de ne pas voir ses enfants grandir. Et donc, il refusait cette première idée de se marier en Égypte. Et il disait, moi, je veux être au quotidien avec mon épouse. Donc ça, c'était en 2014. Il se trouve qu'en 2016, il m'a invité à son mariage dans le village de Kafr el-Shams. Bien la preuve que le social, c'est souvent assez puissant. Et donc, il a fini par se marier. Donc là, c'est pas sur le schéma de parenté, puisqu'il s'est marié en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis revenue voir plusieurs fois donc, son épouse en Égypte. Et elle ne peut pas voyager, c'est-à-dire qu'elle, elle n'a aucun visa, ils ont eu un petit bébé, donc c'est extrêmement compliqué pour qu'elle puisse voyager jusqu'en France. Et elle disait, la dernière fois que je l'ai vue, quand on s'est engagé et quand on s'est fiancé, il me parlait très souvent de voyage et de migration. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il n'y allait avoir que lui qui allait voyager. Et donc, la situation aujourd'hui, en tout cas d'Islam, est très compliquée puisqu'il a perdu son titre de séjour et il n'a jamais vu sa petite fille qui a maintenant 2 ans, 1 an et demi. Et donc, on a une famille qui est concrètement séparée, notamment parce que, alors, j'ai pas mis les photos ici, mais c'est à peu près le même intérieur chez Islam que chez Amin. C'est quand même un train de vie extrêmement coûteux et donc maintenant, ils sont rendus extrêmement dépendant de la migration, puisqu'il faut entretenir ce rythme de vie-là et ce niveau de vie-là, et c'est extrêmement compliqué. S'ils arrêtent de voyager en France, ils risquent de plus avoir de ressources. Du coup, la migration devient finalement nécessaire au maintien d'un certain niveau de vie et donc devient finalement une obligation. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans le voyage, dans l'aventure. Là, maintenant, c'est, compte tenu d'une situation en Égypte assez catastrophique économiquement parlant, ils sont obligés de rester dans cette migration-là. Donc, en conclusion, je voulais revenir sur 2 éléments importants. D'une part, le cas de la transmission migratoire, qui nous amène finalement à plaider pour une conception de la migration pas nécessairement établie comme le résultat d'une décision collective, mais plutôt comme le résultat qui est rendu possible par la mobilisation d'un collectif. Chacun reste libre quand même de faire ou de ne pas faire, de ne pas partir en migration, mais le collectif est une ressource. Qu'il s'agisse de l'aide apportée, de l'accompagnement ou encore de l'influence symbolique, le groupe de pères, les membres de la famille, vont jouer un rôle dans l'élaboration du projet migratoire. Toutefois, contrairement aux visions enchantées du groupe familial solidaire autour de la migration, les processus de mobilisation de ressources et d'organisation collective ne sont pas exempts de tensions au sein du groupe familial et peuvent s'accompagner donc d'une redéfinition des rôles joués par les uns et les autres dans le cadre de la famille. Finalement, le mariage s'avère être une opération économique, sociale, mais aussi politique, et les rapports sociaux sous-jacents aux comportements matrimoniaux nous ont amenés finalement à défendre l'hypothèse selon laquelle le mariage peut être révélateur, d'un contexte sociopolitique aussi, dans lequel retarder le mariage, rester célibataire ou au contraire répondre aux injonctions de la famille pourrait tout à fait constituer des modes de résistance ou de reproduction d'un système tout à fait normatif qui s'inscrirait donc dans la remise en cause hein, des règles sociales. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.